Troisième partie, l'un pour l'autre. Chapitre 24, ce que les morts laissent aux vivants. Ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte. François Cheng. Manchester, commissariat de Cheetham Bridge, 4h du matin. Dans la pénombre de son bureau, Jim Flaherty augmenta la puissance du chauffage d'appoint, mais l'appareil, gracieusement fourni par l'administration, venait de rendre l'âme et crachait désormais de l'air froid. Tant pis, il en serait quitte pour garder son écharpe et sa veste polaire. En cette veille de réveillon, le commissariat était presque désert. Du côté des interpellations, la nuit avait été calme. Le froid qui paralysait le nord-ouest de l'Angleterre avait au moins le mérite de freiner la délinquance. Un tintement aigu signala l'arrivée d'un mail. Jim leva la tête vers son écran et ses yeux s'illuminèrent. C'était le courrier qu'il attendait. Le rapport de l'expert-graphologue à qui il avait envoyé la photographie de la serviette en papier confiée par Jonathan Lempereur. La veille, lorsqu'il avait rempli le formulaire officiel, il avait vu sa demande rejetée sous prétexte que l'affaire Dixon était close et que l'administration n'avait plus ni temps ni argent à lui consacrer. Il avait alors choisi une voie détournée et fait appel à l'une de ses formatrices à l'école de police. Mary Lodge, l'ancienne responsable de l'unité d'expertise comparaison d'écriture manuscrite de Scotland Yard. Elle travaillait aujourd'hui comme consultante à des tarifs prohibitifs, mais avait accepté de lui rendre ce service gratuitement. Jim lut et relut le courrier avec fébrilité. Les conclusions du rapport étaient ambiguës. Les phrases sur la serviette en papier pouvaient très bien être de la main d'Alice, mais l'écriture change et évolue quand on grandit. La nouvelle calligraphie était plus mature que celle des échantillons du journal intime, rendant difficile une identification certaine. Jim soupira. Ces putains d'experts ne veulent jamais se mouiller. Un bruit. Quelqu'un poussa la porte du bureau sans prendre la peine de frapper. Flaherty leva la tête et plissa les yeux pour reconnaître son collègue, Trevor Conrad. « Ça caille ici !» remarqua le jeune flic en remontant la fermeture éclair de son blouson. « Tu as terminé ?» demanda Jim. « Je te préviens, c'est la dernière fois que tu me fais bosser toute la nuit pour un dossier classé depuis des mois. Relever ces empreintes n'a pas été une mince affaire, hein, crois-moi » dit-il en lui rendant le sachet en plastique contenant la pièce à conviction, la fameuse serviette en papier tachée de chocolat. « Tu as trouvé quelque chose d'exploitable ?»« En tout cas, j'ai travaillé comme un malade. J'ai passé ta serviette au DFO. J'ai bien des traces, des fragments, mais tout ça reste très partiel. » Il lui tendit une clé USB en le mettant en garde. « Je t'ai copié tous les relevés. Mais c'est le foutoir. Ne t'attends pas à trouver un dactylogramme complet. »« Merci, Trevor. » »« Bon, moi je me tire. Avec tes conneries, Connie va encore croire que j'ai une maîtresse. » maugréa le jeune inspecteur en quittant la pièce. Resté seul, Jim inséra la clé USB dans le port de son ordinateur. Trevor était parvenu à isoler une dizaine de fragments, dont deux ou trois semblaient utilisables. Jim les fit glisser sur le bureau de son PC. Il agrandit les clichés et resta un long moment à contempler avec fascination ces entrelacs de courbes, de boucles, de crêtes et de sillons qui parcourent la peau de nos doigts pour donner à chacun d'entre nous sa singularité. C'est avec appréhension qu'il se connecta au fichier automatisé des empreintes digitales. Il savait que c'était quitte ou double, mais dans la solitude et le froid de la nuit, il voulait encore croire en sa bonne étoile. Il lança la comparaison des trois formes avec les centaines de milliers contenus dans la base de données. L'algorithme commença son balayage à une vitesse hallucinante. Dans ce domaine, la loi anglaise était l'une des plus exigeantes au monde. Elle imposait la présence simultanée de 16 points de convergence pour pouvoir authentifier deux empreintes digitales comme identiques. Soudain, l'écran se figea sur le visage triste d'Alice Dixon. Jim fut parcouru d'un frisson. Les empreintes sur la serviette en papier étaient bien celles de l'adolescente. Ce Jonathan Lempereur ne lui avait pas raconté de bobards. En décembre 2009, plus de 6 mois après qu'on lui eut arraché le cœur, Alice Dixon était encore en vie. Il sentait ses mains trembler et les priorités se bousculer dans sa tête. Il allait faire rouvrir l'enquête. Il allait prévenir son chef, les médias, Madeleine. Cette fois, ils allaient la retrouver. Il n'y avait pas un instant à perdre. Le bruit sourd et diffus d'une déflagration rompit le silence de la nuit. Tiré à bout portant, la balle tua Jim sur le coup. L'ombre s'était glissée par la fenêtre. Vêtu de la tête aux pieds d'une combinaison noire, le tueur poursuivit la mission pour laquelle on l'avait payé. Il plaça l'automatique dans la main de Jim pour faire croire à un suicide, puis, comme on le lui avait demandé, récupéra le plastique contenant la serviette en papier ainsi que la clé USB. Il connecta ensuite un petit disque dur à l'ordinateur du policier défunt et s'en servit pour introduire le virus Tchernobyl 2012, une saloperie foudroyante qui, dans un temps record, allait infecter les programmes de la machine, effacer le contenu de son disque dur et empêcher la bécane de redémarrer. L'opération prit moins de 30 secondes. À présent, il fallait déguerpir. Le commissariat avait beau être aux trois quarts vide, quelqu'un n'allait pas tarder à débarquer dans la pièce. Le silencieux qui équipait le Beretta était d'une efficacité relative. Il modérait et noyait l'intensité de la détonation sans pour autant la réduire au chuintement bref que l'on entendait dans les films. L'ombre rembarqua rapidement son matériel. Au moment où elle s'apprêtait à ressortir par la fenêtre, elle entendit le téléphone de Jim vibrer sur le bureau. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au smartphone. Un prénom s'afficha à l'écran. Madeleine.